Kézako, le premier podcast scientifique pour les jeunes, par les jeunes.
Il y en a partout, dans l'électronique, dans l'imagerie médicale, dans les aimants du LHC, les SQUID, etc. Oui, je parle bien de la supraconductivité. Ce nom vous est inconnu ? Ne vous en faites pas. Malgré ses nombreuses applications, ce thème demeure inconnu pour une grande partie d'entre nous. Pourtant, il est essentiel. Et c'est là où la vulgarisation scientifique intervient. En effet, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de s'informer sur Internet et nous ne sommes plus restreints à des cours universitaires car une simple vidéo de 5 minutes peut nous aider à comprendre un phénomène qui nous semblait obscur. De nombreux scientifiques se sont d'ailleurs donnés à la tâche ces dernières années. Julien Bobrov, physicien spécialisé en supraconductivité, s'est d'ailleurs lancé ce défi, car depuis 2005, il effectue de nombreuses interventions, conférences, animations auprès des lycéens afin de rendre la science plus accessible. Il a d'ailleurs été distingué par plusieurs prix comme la médaille de la médiation scientifique en 2022, qui récompense des scientifiques pour leurs actions mettant en valeur la science au sein de la société. Ce prix, reçu le 12 octobre 2022, n'est d'ailleurs qu'une infime partie de son parcours, et nous aurons l'occasion d'en savoir plus sur lui ainsi que son domaine d'études dans les minutes qui suivent, car nous avons l'honneur de l'avoir avec nous pour une interview. Mais avant ça, place aux présentations. Bonjour Julien.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas ?
Oui, je m'appelle Julien Bobrov, donc je suis physicien. Je travaille à l'université Paris-Saclay, je suis professeur. Et je fais de la recherche. Alors j'ai pendant longtemps fait de la recherche sur la physique quantique et la supraconductivité. Et maintenant, j'anime une nouvelle équipe de recherche sur les questions de vulgarisation et d'enseignement.
Ok, ça marche. Bah justement, on va tester en fait dans un instant vos qualités de vulgarisateur, car comme tu t'en doutes, certains ont encore du mal à comprendre l'univers de la supraconductivité. Et justement, comment tu pourrais leur expliquer en quoi consiste cette thématique brièvement ?
Alors la supraconductivité, c'est une toute petite branche de la physique quantique en fait. Donc le grand domaine, c'est la physique quantique. La physique quantique, c'est les lois du monde à toute petite échelle, à l'échelle d'un atome ou d'un électron. Et alors la supraconductivité, c'est un phénomène tout à fait étrange qui apparaît dans les métaux quand on les refroidit, dans certains métaux ou certains matériaux, où soudain tous les électrons se mettent ensemble pour former une sorte de vague géante qui conduit le courant parfaitement. C'est pour ça qu'on appelle ça des supraconducteurs, ça supraconduit. Et puis ça fait plein d'autres trucs marrants, par exemple ça fait léviter n'importe quel aimant.
Ok, bah du coup ça confirme bien ce que je pensais, vous êtes vraiment un expert en la matière. Et de ce que j'ai pu comprendre, vous ne travaillez pas seul mais en équipe, car en effet vous avez animé l'équipe de recherche et vous animez toujours physique autrement. Alors comme l'indique le nom, c'est pas une équipe de recherche traditionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement sur cette équipe ? Quels sont les objectifs ? Et surtout, qu'est-ce qui la distingue des autres ?
Oui, alors moi j'ai commencé la vulgarisation bien avant cette équipe-là. Et puis j'enseignais aussi à l'université. Et je me suis rendu compte en fait, à la fois quand j'enseignais et quand je vulgarisais, que je faisais ça de façon très traditionnelle. Hein, souvent devant un PowerPoint en animant les slides les unes après les autres ou devant un tableau noir pour mes étudiants. Et j'ai commencé à me demander, est-ce qu'on pouvait pas faire autrement ? Est-ce qu'on pouvait pas s'y prendre différemment pour vulgariser et enseigner, alors surtout les domaines les plus complexes comme la physique quantique ? Et je me suis très vite rendu compte que j'avais aucune idée, aucune solution moi-même, et que je retombais toujours dans mes trucs habituels. Et donc j'ai commencé à aller voir des designers, en fait des gens qui font pas du tout de la physique, mais qui font du design graphique, du design d'objets, du design d'événements. Et je leur ai dit, est-ce que vous voudriez qu'on travaille ensemble pour réfléchir à cette question ? Et ça s'est bien passé, et donc au point où à un moment donné, j'ai été voir mes institutions à moi, le CNRS, l'université, et je leur ai dit, j'ai l'impression qu'on tient un truc nouveau, et ça vaudrait peut-être le coup de faire une équipe de recherche là-dessus. Donc une équipe où on mélange des scientifiques et des designers pour essayer de repenser nos façons d'enseigner et de vulgariser.
Et justement, vous avez dit que vous avez collaboré avec des designers. Alors pourquoi avoir fait ce choix ? Est-ce que vous pensez du coup que science et art seraient étroitement liés ou diamétralement opposés ?
Ouais, non, je pense pas qu'ils soient si liés que ça. Alors il y a beaucoup de trucs à la mode qui disent que l'art et la science ont une même approche du monde. Moi, je pense que pas du tout. Je pense que c'est deux approches très différentes, à la fois de la question de la vérité, de la question de l'individu, du collectif, etc. Et qui se complètent très bien d'ailleurs. Moi, j'ai été voir des designers, peut-être un peu plus que des artistes, c'est-à-dire des gens qui sont capables de réfléchir à ce que c'est que la forme, à ce que c'est que l'usage, à ce que c'est aussi que le lien avec le public. Qu'est-ce qui se passe quand on parle ? Qu'est-ce qui se passe quand on montre ? Et de jouer avec plein de formats et de supports différents pour essayer de réfléchir ce qui peut aider à mieux faire passer la science. Donc c'est pas juste s'inspirer de la science pour faire de l'art, et pour la beauté de l'art, hein, c'est pas du tout ça l'enjeu chez nous. Nous l'enjeu chez nous c'est qu'à la fin on a un public, soit des étudiants, soit des lycéens, soit du grand public, mais qu'est-ce qu'on va trouver ensemble comme solution pour parler de science autrement? Et les designers sont très adaptés pour ça.
Ok, ça marche. Du coup, c'est un peu un moyen de faire... Enfin, passer le message de manière plus ludique. Et justement, en fait, les sujets que vous traitez sont très complexes. Et comment vous arrivez à les vulgariser à un public aussi jeune?
Ah, c'est une vaste question. Donc, on y travaille depuis 10 ans déjà que cette équipe existe. Et on a fait plus de 300 projets. Donc, on a trouvé 300 façons différentes de faire. Donc, il n'y a pas une seule bonne réponse. Je crois que déjà, l'idée, c'est de sortir de nos schémas habituels, sortir de nos formats habituels. Je parlais du PowerPoint, du tableau. Puis, les lycéens, ils connaissent ça. Ils en ont vu passer des profs qui leur font des cours de ce genre-là. Donc, essayer d'utiliser d'autres formats et qui peuvent être inattendus. Par exemple, pour la physique quantique, pour la physique très complexe, on attendait à ce qu'on fasse des choses très numériques, très vidéo, avec des effets spéciaux. Ben, on a fait exactement l'inverse. On a utilisé du bois, on a utilisé du métal, on a utilisé des petits films avec des petits bouts de papier. Donc, aller vers des choses plus tangibles. Alors, je vais peut-être donner quelques exemples très concrets pour qu'on imagine ce que ça peut être. Ben, par exemple, quand on parle de supraconductivité, on aime bien montrer des petites expériences de lévitation supraconductrice. Mais avec un designer qui s'appelle Alexandre, on a fabriqué un cirque. Donc un petit cirque en bois, quand on arrive par exemple dans un lycée ou dans une école, on ouvre le petit cirque, on l'installe. Il y a des petits oiseaux, des petits piou-piou en bois, et qui dans leurs fesses en fait ont des aimants et des supraconducteurs. Et soudain ça va les faire flotter, ils vont se balader sur un petit rail. Donc on va créer tout un univers un peu amusant, ludique, dans lequel on peut s'échapper et apprendre de la physique sans en avoir l'air. Donc ça peut être très ludique comme ça. Ça peut aussi être d'autres trucs. Alors, un autre exemple, juste pour se rendre compte, des activités qu'on propose aux gens. Par exemple, on propose aux gens d'utiliser leur smartphone pour mesurer des choses autour d'eux. Par exemple, parce qu'un smartphone est bourré de capteurs. Alors, par exemple, pour mesurer la hauteur d'un bâtiment. Et on s'est amusé à imaginer 61 façons de mesurer la hauteur d'un bâtiment avec un smartphone, avec des trucs complètement délirants, où on lâche le smartphone du haut du bâtiment, on le suspend à une corde et on le fait balancer. Et donc, c'est plein de façons pour nous d'apprendre aux gens à faire de la science en s'amusant.
Et justement, une des manières de transmettre la science, ce serait pas aussi les réseaux sociaux, parce que depuis pas très longtemps, vous vous êtes lancé justement sur plusieurs réseaux. Et selon vous, est-ce que du coup, ça pourrait être une manière de s'informer? Est-ce que scroller sur TikTok, ça pourrait finalement nous permettre d'apprendre de nouvelles choses?
Alors oui, depuis de toute façon le début d'Internet et des réseaux sociaux, la vulgarisation a eu une très bonne place. D'abord sur YouTube, où elle a fait vraiment tout un travail avec des tas de jeunes YouTubeurs formidables. Et puis maintenant, elle s'étend un peu sur tous les réseaux, sur Twitch, sur TikTok, sur Insta, etc., etc. Donc nous, à notre petite échelle, on a toujours la même attitude, qui est de se dire, on va tester, on va essayer d'autres formats. Et donc, quand TikTok est arrivé, on s'est dit, tiens, c'est un autre format, sur lequel en plus, il y a beaucoup de jeunes, donc essayons, et puis sur Insta aussi. Et donc, depuis quelques mois, on essaye de poster 2-3 fois par semaine des vidéos qui font, allez, une minute maximum, et on essaye de raconter un truc hyper compliqué de physique, en une minute ou en 30 secondes, et évidemment avec les codes des réseaux sociaux et les codes de TikTok, alors comme on peut évidemment à notre échelle, parce qu'on est quand même des vieux schnocks. Et donc voilà, ça nous fait découvrir des nouvelles façons de faire, un nouveau public, et puis ça pose plein de questions amusantes. Est-ce qu'on est capable d'expliquer une équation en 30 secondes? Est-ce qu'on est capable d'expliquer un phénomène quantique en une minute, d'expliquer le chat Schrödinger? Et puis quels accessoires on peut utiliser? Comment on peut mettre ça en scène? Et donc pour nous, ça fait partie un peu de notre travail qui est d'explorer des nouveaux formats. TikTok, c'est un nouveau format. 30 secondes, c'est une nouvelle contrainte. Et on essaye et on s'amuse beaucoup avec ça.
Et en parlant de ça, justement, je voulais vous parler justement de l'expérience du chat Schrödinger. J'étais tombée sur une de vos vidéos qui l'expliquait très bien. Pour ceux qui ne vous suivraient pas sur la toile, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste cette expérience pour nous initier à la physique quantique? Parce qu'on va en venir très rapidement.
Ouais, alors le chat Schrödinger, c'est une des plus compliquées. Mais en gros... La physique quantique nous apprend que, à toute petite échelle, par exemple à l'échelle d'un atome, un atome il peut être dans deux états à la fois. Un peu comme s'il était par exemple, à la fois noir et rouge, ou qu'il était à la fois à un endroit et à un autre endroit. Et c'est vraiment ce qui se passe, c'est-à-dire que on sait dans les laboratoires mesurer des atomes dont on a l'impression qu'ils se retrouvent vraiment à deux endroits à la fois. Et à partir de là, Schrödinger, qui était un physicien, avait imaginé des tas de paradoxes et des tas de machines impossibles. Et s'était dit, mais si ce truc-là c'est vrai, je vais pouvoir fabriquer une machine bizarre avec une fiole de poison qui va être reliée à l'atome. Puis quand l'atome est dans un état, ça casse la fiole de poison. Dans l'autre état, ça la casse pas. Et donc à la fin, dans la boîte, s'il y a la fiole de poison et l'atome, va y avoir du poison si l'atome est dans un état, pas de poison s'il est dans l'autre état. Et donc si l'atome est dans les deux états à la fois, il y a à la fois du poison et pas de poison, mais ça veut rien dire. Et pour montrer à quel point ça voulait rien dire, il disait, mettez un chat dans la boîte. Le chat, il va être à la fois mort et vivant. Parce qu'il y aura à la fois du poison et pas de poison, parce que l'atome qui aura déclenché tout ça est dans deux états à la fois. Et donc Schrödinger disait, vous voyez, il y a un truc un peu impossible qui est qu'on dit qu'un atome peut être dans deux états à la fois, et à la fin, on se retrouve avec un chat qui est à la fois mort et vivant. Et on sait bien que c'est pas possible, un chat à la fois mort et vivant. Alors en fait, ce paradoxe du chat Schrödinger, il se trouve qu'on l'a compris depuis quelques années, on a compris qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, effectivement, un atome peut être dans deux états à la fois, même si c'est très troublant, c'est vrai. Mais au moment où on va le brancher sur la machine qui va devoir regarder dans quel état il est, et ben là, il va être obligé de choisir. Et donc, avant que la fiole de poison ne soit cassée, l'atome, lui, il est obligé de dire s'il est dans un état ou dans un autre état. Donc, à la fin, le chat sera soit mort, soit vivant. Donc, à notre échelle à nous, à l'échelle de l'être humain, à l'échelle du chat, à l'échelle de notre monde, on ne peut pas être dans deux états à la fois. Et ça, on le sait bien, il suffit de regarder autour de nous. Par contre, à l'échelle d'un atome, tant qu'on le protège bien, qu'on le met dans une boîte noire, qu'on le mesure délicatement, bien lui, il peut être dans deux états à la fois. Donc, on a un monde quantique à petite échelle et notre monde à nous à grande échelle.
Et justement, en parlant de physique quantique, le 4 octobre, ça a été une date assez importante, donc 2022 bien sûr, parce qu'il y a eu deux événements. Donc le premier, c'était tout simplement la remise du prix Nobel sur l'intrication quantique, donc pour le français Alain Aspect. Et est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots justement sur ce qu'il a fait? Parce que quand on dit intrication quantique, bah, généralement, ça nous parle pas trop.
Ah non, ça nous parle pas trop. C'est très compliqué et c'est à la fois absolument fabuleux. Donc c'est un phénomène dont on pensait qu'il pouvait peut-être exister depuis les débuts de la physique quantique, hein, depuis une centaine d'années, mais on n'y croyait pas trop. Einstein, par exemple, avait écrit un article très célèbre en disant que ça lui semblait impossible. Et ce qui est arrivé, c'est que dans les années 70, 80, 90 et plus récemment, des physiciens ont réussi en laboratoire à montrer que cet effet existait. Et Alain Aspect, le français qui a eu le prix Nobel pour ça, avec aussi un autrichien et un américain, a réussi à montrer cet effet. Alors qu'est-ce que c'est cet effet et pourquoi il est incroyable? Ben dans cet effet, on utilise deux particules, pas une seule mais deux. Par exemple, deux grains de lumière, c'est ça qu'il a fait à Aspect. Il a pris deux grains de lumière, on appelle ça des photons, et il les a mélangés au début, on dit qu'il les a intriqués, donc ils se frottent l'un à l'autre, on peut imaginer ça comme ça. Et ensuite, il les a séparés aux deux bouts de son laboratoire. Et ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que quand on mesure un grain de lumière à un bout du labo, eh bien on se rend compte qu'il a des propriétés qui ont l'air d'être complètement reliées à celles de l'autre à l'autre bout du laboratoire. Ça, c'est pas hyper étonnant hein, s'ils se sont frottés au début. La chose vraiment étonnante, c'est que ces propriétés, il ne semble les adopter que quand on le mesure. C'est-à-dire, tant qu'on le mesure pas, il choisit pas, il est dans deux états à la fois, lui aussi. Mais au moment où on le mesure, il choisit un des deux états, il fait ça complètement au pif, complètement au hasard, mais l'autre photon, à l'autre bout de la pièce, a l'air à ce moment-là de choisir l'état opposé à chaque fois. Comme s'il se parlait à distance. Alors, il se parle pas à distance, hein, ça c'est pas possible, mais il y a quelque chose qui a l'air de s'étendre, de baver en quelque sorte dans l'espace et de relier entre eux ces deux photons à 10 mètres de distance. Et donc, Alain Aspect, il a fait ça à 10 mètres de distance. Depuis, on a réussi à faire ça à 1000 km de distance. Donc, à 1000 km, il y a deux particules quantiques qui ont l'air de se ressentir l'une l'autre en quelque sorte. C'est ça l'intrication. Donc, c'est un phénomène absolument incroyable. Très beau, mais très fondamental, très complexe, et dont on peut se dire en gros que bon, bah, c'est un truc de labo de physicien. Alors il se trouve que depuis, c'est utilisé dans beaucoup de technologies, et en particulier pour l'ordinateur quantique qu'on essaie de développer en ce moment dans les laboratoires et avec plein de grandes industries, et bien au cœur de cet ordinateur, il y a cette intrication. Donc un phénomène dont on pensait que ça intéressait que les physiciens au début, se trouve depuis être dans plein de technologies et d'applications futuristes.
Et justement, en fait, ce 4 octobre, il y a aussi un autre événement qui vous concerne parce que c'était la sortie de votre livre qui parle également de la physique quantique et plus particulièrement de la révolution quantique. Alors, ce livre s'intitule « Bienvenue dans la nouvelle révolution quantique ». Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une révolution quantique et pourquoi une nouvelle? Est-ce que ça sous-entend qu'il y a déjà une révolution quantique auparavant?
Eh oui, on a tous vécu une première révolution quantique sans le savoir, et vous tous, vous l'utilisez en fait sans le savoir tous les jours. Il se trouve que dans les années 1950-1960, il y a des tas de physiciens quantiques justement, qui avaient compris la physique quantique, et qui s'en sont servis pour inventer des nouvelles technologies. Et ils ont inventé coup sur coup toute l'électronique moderne et toute la lumière moderne. Alors ils ont inventé l'électronique moderne parce qu'ils ont inventé le transistor. Le transistor, c'est ce petit composant électronique qui est dans toute l'électronique qui vous entoure, dans vos smartphones, dans vos ordinateurs, et c'est lui qui permet de manipuler les 0 et les 1 qui permettent de faire toute l'informatique et l'électronique moderne. Et ça, c'est une invention de la quantique, c'est cette première révolution quantique. Puis l'autre invention de cette première révolution, c'est le laser et les LED. Hein, tous les éclairages qui vous entourent et qui chauffent pas trop, on les doit à la physique quantique, c'est des inventions de la quantique. Donc ça, c'était la première révolution quantique. Et alors la nouvelle révolution quantique dont je parle dans mon bouquin, elle a lieu en ce moment, là, en ce moment dans les labos et dans les entreprises. C'est les physiciens qui, cette fois-ci, vont faire de la physique quantique, mais sur un seul atome ou sur un seul grain de lumière, un seul photon. Et alors là, c'est très différent, c'est-à-dire le fait de plus en manipuler plein à la fois, mais un seul, d'abord, c'est un prodige technique et technologique, mais surtout, ça permet soudain de faire des choses qu'on ne savait pas faire avant. Par exemple, de mettre un atome dans deux états à la fois, de l'intriquer. Et donc, ces propriétés-là ouvrent tout un champ vers des nouvelles technologies et des nouvelles applications qu'on ne pensait pas possibles jusque-là.
Et votre livre, justement, il en parle sur 300 pages. 300 pages, c'est long, mais est-ce que au moins c'est accessible? Est-ce que, par exemple, si on est collégien, lycéen et qu'on s'y intéresse, on pourrait le lire?
Bien sûr. Alors évidemment, je vends mon livre, donc je triche un petit peu. Il n'y a pas une seule équation dans mon livre. C'est pas un livre d'enseignement de la physique. C'est vraiment un livre pour le grand public, où j'explique exactement comme je le fais là, dans le podcast, ou comme je vais le faire sur TikTok. J'essaie d'expliquer cette physique-là. Alors ça prend 300 pages, parce que c'est une histoire incroyable, c'est une histoire hyper riche, où il y a plein de compétitions entre plein d'équipes dans le monde. Il y a des Allemands, des Américains, des Japonais, des Français, qui vont découvrir plein de choses en parallèle, qui vont être en compète, qui soudain vont se mettre ensemble, qui vont créer des nouvelles technologies. Donc il y a plein d'histoires derrière ça, c'est pas une seule histoire. Hein. C'est ça que je raconte dans le livre. Alors là, on peut se poser la question, même plus généralement, parce que vous avez peut-être un public un peu plus jeune, hein. Moi je suis un vieux quand même dans cette histoire, donc moi j'aime bien les bouquins, est-ce que ça vaut encore le coup en 2022 de lire des livres de science? On peut se poser la question, hein. Il y a les podcasts, il y a les conférences sur internet, et puis il y a TikTok, il y a Insta, etc. etc. Alors moi, ma réponse, c'est qu'on n'est pas obligé, si on n'aime pas lire, il faut pas se prendre la tête avec des livres, mais ça vaut le coup d'essayer si on ne l'a jamais fait. Moi, quand j'étais jeune, quand j'avais 16-17 ans, je me suis mis à lire des livres de science. Et soudain, il se passait quelque chose, quoi. Soudain, je rentrais dans une espèce de tunnel, d'une histoire un peu poétique qu'on me racontait et qui m'enthousiasmait et qui me faisait rêver et qui fait que j'ai choisi ce métier plus tard. Et c'est pas la même chose qu'une conférence. Je sais pas comment le dire, mais c'est un peu comme quand on va aller au cinéma, c'est pas la même expérience que quand on va lire un bon roman de SF ou d'anticipation. Parce que dans un roman, on se fait aussi ses propres images, on se laisse emmener à son rythme, on se balade, voilà. Donc c'est un voyage qui prend plus de temps, qui est plus long, mais dont on sort un petit peu différent. Donc si vous avez jamais essayé, essayez de lire un livre de science. Alors le mien ou un autre, hein, bien sûr, hein, le mien est pas forcément meilleur qu'un autre. Dans le mien, moi, ce que j'ai fait, c'est vraiment essayer de raconter aussi le côté humain, parce que c'est des histoires de femmes et d'hommes aussi, les histoires de science. Et là, la chance que j'ai, c'est que je connais pas mal des gens qui sont en train de faire cette révolution quantique, donc j'ai été les interviewer, j'ai été leur demander un peu dans les coulisses, mais alors qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'anime, est-ce que t'y crois, est-ce que t'y crois pas? Et ils m'ont raconté un petit peu les choses sans langue de bois. Et c'est ça que j'essaye de retranscrire aussi dans le livre, de raconter cette aventure qui est d'abord une aventure humaine.
Et justement, si on veut se procurer ton livre, c'est où qu'on peut le retrouver? Est-ce qu'il est en ligne sur le site du coup de Physique Autrement ou on peut l'acheter?
Non, c'est un livre exactement comme tout livre, il est dans toutes les librairies, c'est chez Flammarion, donc n'importe quelle librairie là en ce moment, il est sur la Fnac, il est sur Amazon, il est absolument partout, c'est vraiment comme un autre livre, hein, comme un roman normal.
Merci beaucoup en tout cas pour ce temps que vous nous avez accordé. Nous sommes très ravis de vous avoir aussi sur Kitako. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu et que cela vous a permis d'en découvrir un peu plus sur la vulgarisation scientifique, la physique quantique et la supraconductivité. En tout cas, je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Sarah de Kitako.